ou des montres à complication, on a parlé de compliqué ce matin, il y a des montres à réserve, l'inconscient comme réserve, etc. Je ne vais me référer qu'à une seule forme d'horloge, non pas les sabliers, mais les cierges horaires. Depuis quelques années, l'approche de l'an 2000 a amené à réactualiser ces horloges de la rebours. Devant Beaubourg, fut installée une telle horloge immense, égrenant la rebours des secondes, puis à Boston, puis à Chicago, et enfin sur la tour Eiffel ces derniers jours. J'ai fini deux phrases. Toutefois, à cette horloge, visualisant la perte menant à une série de zéros, les maîtres du temps ont donné un très joli nom, très consolateur, puisqu'ils les ont appelés les génitrons. Je vous remercie de votre attention.
Paul Denis.
Oui, merci à Bernard Chervet de nous avoir appris que quand on surgèle une montre molle, elle devient postiche. Alors, ce que je voulais dire, c'était revenir sur la question de la rencontre et de la temporalité. Puisque dans la rencontre, qu'elle soit analytique ou privée, il y a l'articulation d'un temps subjectif, d'un temps auto-érotique, avec un temps partagé avec quelqu'un d'autre, et je rejoins, je crois, une préoccupation de Jean-Guillaume. Si la marquise sort à 5 heures, c'est pour aller voir son amant, son psychanalyste ou chercher ses enfants à l'école. C'est-à-dire que le temps est bien lié à quelqu'un d'autre, et s'il y a des phobies de la ponctualité, c'est aussi parce qu'il y a des phobies de la rencontre ou des phobies sociales. Le temps implique donc l'anticipation de la rencontre avec autrui et d'autre part l'anticipation de la menace de la séparation. Et dans cette articulation d'un temps subjectif, d'un temps privé avec le temps d'autrui, il y a quelque chose d'une convention qui s'engage. L'heure est quelque chose de conventionnel. Convention entre personnes, et de ce point de vue-là, il y a le même arbitraire du signe horaire qu'il y a un arbitraire au signe linguistique. Si bien que dans l'analogie, enfin dans la référence au langage faite par Jean-Claude Roland, il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait tout à fait s'appliquer à la question du temps. Quand Jean-Claude Roland nous dit que la langue est une instance du moi, on pourrait tout à fait dire que le temps, dans la mesure où il est quelque chose d'élaboré entre des personnes pour gérer leurs échanges subjectifs, articuler un temps subjectif avec le temps de quelqu'un d'autre, eh bien, on pourrait dire que le temps, à ce moment-là, est une instance du moi. Et c'était donc ça que je voulais dire.
Merci. René Roussillon. Roussillon.
Ça y est. Oui, quelques mots pour essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de renverser la perspective qu'on adopte par rapport à cette question du temps et de poser l'énigme non pas tant du côté de l'intemporalité de l'inconscient que de poser l'énigme du côté de la question du temps, c'est-à-dire au fond la question pourquoi le temps. Il me semble que par ailleurs la question n'est pas tant de savoir si le temps est une catégorie psychanalytique ou pas. La question est de savoir beaucoup plus, parce que ça n'existe pas sous forme d'en soi. Ce qui existe, c'est la manière dont une théorie, une pensée construit un concept. Alors il me semble que la question, ça serait de savoir comment la théorie psychanalytique peut construire un concept de temps. Alors à cet égard, il me semble qu'il est nécessaire de partir, pour penser le temps, de la question de l'intemporalité. Moi, je ne pense pas que ceci fasse véritablement énigme dans la théorie psychanalytique, dans la mesure où il me semble que le fondement de cette théorie est l'idée qu'il y a un processus hallucinatoire. Et il me semble que ce processus hallucinatoire, dans sa nature même, est un processus de présentation, est un processus de présentification, est un processus d'actualisation qui suppose dans son processus même, effectivement, l'époque, la suspension de la temporalité. Présenté perceptivement présuppose en effet que le temps soit, alors non pas aboli, mais je dirais suspendu. Alors il me semble que ça, c'est le fond du fonctionnement psychique tel que nous l'envisageons dans la théorie psychanalytique. Et que si nous voulons penser le temps, il faut le penser à partir de la question posée par ce fond hallucinatoire. Alors ça amène à penser qu'il y aurait à chercher la cause du temps, l'une des raisons qui nous fait construire le temps, et je pense que le temps n'est pas une donne, c'est pas une donne psychique fondamentale, la donne psychique fondamentale c'est l'intemporalité, et que le temps est une construction, et une construction qui va justement venir pour tenter de colmater quelque chose de la brèche qui va ne pas manquer d'advenir sur le fond du processus hallucinatoire. C'est bien parce que l'hallucination est en échec, c'est bien parce qu'il y a une rupture du fond de continuité psychique donnée par l'activation hallucinatoire et la permanence de la pulsion, c'est bien parce qu'il y a cette rupture-là, et bien parce que cette rupture-là place le sujet dans une position de désarroi et de détresse qu'il va falloir construire le temps. Et il me semble que, à cet égard-là, la première forme qui en apparaît est celle, je dirais c'est une forme négative, c'est celle du temps suspendu. C'est celle de cette espèce de creux qui vient se loger dans la discontinuité et dans l'échec du processus hallucinatoire. De ce point de vue-là, s'il y avait une matrice de la temporalité, je proposerais volontiers de la chercher du côté des premières formes de représentation de choses, de l'absence de représentation de choses. Et il me semble que c'est à partir de cette matrice-là et sur fond de ces matrices-là que petit à petit va se construire, et là encore, ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est à construire par la psyché, que vont se construire les catégories tellement fondamentales pour nous soigner de la blessure du temps, qui sont les catégories de l'originaire. André évoquait ce matin l'importance des fantasmes originaires. Moi, je dirais l'originaire en général, en mettant sous cette catégorie trois des éléments qui me paraissent être tout à fait essentiels dans cette question. La problématique de l'origine, bien sûr, mais en pensant que l'origine, c'est un concept, c'est donc quelque chose qui est à concevoir, qui est à construire, c'est pas une donne. Bien sûr, la problématique évoquée ce matin concernant la causalité. Et puis la troisième qui a été peu évoquée, mais qui me paraît moi tout à fait essentielle et fondamentale par rapport à la problématique de la temporalité, c'est-à-dire la problématique de la culpabilité. Et je terminerai pour dire que ce sont ces trois problématiques enchâssées qui me paraissent être à l'origine de la nécessité devant laquelle nous sommes de construire un temps pour soigner cette blessure de la faillite du fond hallucinatoire de notre psychisme. Merci.
Merci beaucoup. Manuela Utriglia.
Juste, excusez-moi, j'étais en train de partir. Donc, je vais être bref. Simplement remercier Jean-Claude Roland de tout ce qu'il nous a fait penser ce matin. Et je voulais lui poser quelques questions, mais maintenant, à cette heure-ci, je ne sais pas. Je vais lui poser. Qu'est-ce qu'il en pense des analystes qui peuvent travailler la situation analytique avec une théorie de psychanalyse appliquée? Je sais que ce n'est peut-être pas lui qui devrait me répondre, mais je crois que c'est une question qui se pose aujourd'hui ici. C'est qu'est-ce que c'est que la situation analytique et qu'est-ce que c'est la psychanalyse appliquée? Et je pense que c'est une question qu'on doit se poser tous. Et la deuxième question que je voulais lui poser, c'était, ça m'a fait un peu réfléchir, Enfin, dans son rapport, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et quand je l'écoutais encore plus, j'étais émue. Mais quand il dit que le concept de représentation des choses lui convient mieux que les traces mnésiques, ça m'a fait un peu tressiller, moi, parce que il faut rappeler que je crois qu'on ne peut pas comprendre l'essence des représentations sans le concept des traces mnésiques, puisque Freud dit que la représentation, c'est l'investissement des traces mnésiques. Bon, alors là, il y a une question importante qui se pose. Et puis, les destins des traces mnésiques, je pense qu'on peut penser à trois destins possibles. C'est un, c'est la transformation en conscience, évidemment. Le deuxième, c'est la compulsion des répétitions. Et le troisième, c'est l'estagnement des traces mnésiques qui vont devenir les dénis du temps, par exemple. Donc, aujourd'hui, on a fait bien l'expérience. Alors, pour moi, la question serait... La compulsion des représentations, est-ce que ça ne serait pas la résexualisation? Est-ce que quand l'analyste écoute, il est résexualisé, il ne se produit pas chez l'analyste, est-ce que disait Marie-Lia Einstein, un manque de représentation par cette résexualisation qui les frappe, et à ce moment-là, il ne peut pas écouter, et à ce moment-là, quand il ne peut pas écouter, il doit inventer une théorie de psychanalyse appliquée qui fait qu'effectivement, il projette chez les patients son manque de représentation. Merci.
Okay. Merci. Le dernier, Jean-Pierre Caillot.
Oui, il est très tard, j'irai donc très vite, mais je voulais insister sur l'intérêt que j'ai pris en écoutant François Duparc à propos de l'inversion générationnelle et de l'inversion du temps. Alors, j'ai pensé alors aux propositions, par exemple, de Mélanie Klein dans Vie et gratitude, où il y a un renversement à un moment, elle propose... et d'ailleurs, dans votre exposé, il y avait une patiente qui disait qu'elle se sentait la mère de sa mère. Et Mélanie Klein propose comme figure d'omnipotence l'idée est que le bébé se sent la mère de sa mère. Donc, on voit là que ce qui est après, ce qui est avant, est inversé. Et ce sont des thèmes également développés par Melzer et par Rosenfeld, abondamment par Rosenfeld d'ailleurs, comme figure d'omnipotence, et également repris, abondamment repris, développés par Racamier, où il y a une opposition en quelque sorte entre les relations narcissiques incestueuses et les relations oedipiennes. Et... le renversement avant-après dans les relations incestueuses, comme vous l'avez décrit, et la construction des générations correctes dans les constructions oedipiennes. Alors je crois donc qu'il y a... On a parlé de carence de représentation. J'ajouterais qu'il me paraît tout à fait essentiel dans certaines pathologies de parler de carence de représentation générationnelle qui s'oppose... aux constructions oedipiennes avec sa construction générationnelle.
Merci. Je pense que Jean-Claude Rollin peut dire quelque chose pour répondre aux demandes.
Il faudrait que je dise beaucoup de choses pour répondre à la multitude de réflexions qui m'ont été faites, certaines étant m'enrichissant énormément, d'autres avec lesquels je serais plus dans le désaccord. Je voudrais simplement dire deux choses pour conclure. Je pense qu'on reprendra cette discussion demain et dimanche, oui, et qu'on aura plus le temps de méthodiquement répondre aux différentes remarques qui ont été faites. Il y a deux choses. La première, c'est que je crois que c'est surtout le commentaire de François Duparc qui m'a fait penser ça, c'est que la théorie en psychanalytique exige d'une certaine façon un certain radicalisme, c'est-à-dire la nécessité, pour pouvoir penser certains concepts, d'exclure un certain nombre de concepts, et qu'il y a une sorte de principe de plaisir théorique à partir duquel il faut réintégrer ce qu'on a exclu à l'extérieur, qui est un mouvement théorique qui est à peu près identique au mouvement du moi. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de choses qui m'ont été renvoyées sont des choses que j'ai dû pour la poursuite d'un certain nombre de concepts, mettre à l'extérieur de mon système théorique, et dont maintenant j'ai la tâche, malgré le déplaisir que ça apporte, de réintroduire. Ça me demandera du temps, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Deuxième chose, deuxième toute petite remarque qui vient aussi du commentaire de François Duparc, mais j'aurais beaucoup à dire sur ce que m'a dit Jean Cournu aujourd'hui et ce qu'a dit Jean-Luc Denet aujourd'hui et hier, sur des enrichissements très considérables. Je pense en particulier à la question du surmoi, de l'inconscient du moi et du surmoi, et du problème à l'intérieur du moi, des identifications et d'une temporalité qui serait propre aux identifications inconscientes. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Et sur l'idée très ouvante de Jean Cournu, qui serait, je ne sais pas, Jean Cournu, si vous seriez d'accord, qui serait l'idée que. Finalement, l'ombre de l'objet dans la mélancolie, c'est le mot. Et je trouve qu'il y a là quelque chose, une ouverture absolument extraordinaire qui me manquait. Et je repars assez riche de cette réunion. Et ça me compense du grand nombre d'heures que j'ai passées pour le préparer. Je voudrais simplement... alors, petite chose, boutade, mais c'est un peu plus qu'une boutade. Effectivement, recentrer la cure sur la question de l'intemporalité, dont je n'ai pas dit autre chose, René Roussillon, que c'était, qu'il fallait partir de ça. C'est ce que j'ai dit, il faut partir de l'intemporalité. Alors, là, j'ai pensé tout d'un coup, en entendant François Duparc, à ce mot de Bion, être sans mémoire ni désir, qui m'est venu sous la plume, enfin, qui m'est venu au bout de la langue une multitude de fois, que j'ai retenu, et je ne savais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai compris. Être sans mémoire ni désir, ça fait partie du radicalisme analytique, de son idéal. Malheureusement, c'est impossible à tenir. Et l'analyste, en quelque sorte, s'il voulait véritablement pousser à l'extrême la situation analytique, devrait être absolument sans mémoire et sans désir. Malheureusement, il ne le peut pas, et c'est de cet échec que naît, si on peut dire, le travail analytique. Et ça m'a fait penser, c'est pour ça que je voulais le dire, à ce que Freud dit à la fin d'au-delà du principe de plaisir, en ce qui concerne le progrès psychique. Il dit, il n'y a pas de pulsion de progrès, il n'y a pas de compulsion de progrès, il y a simplement, dans la démarche du principe de plaisir, un échec de ce principe de plaisir, qui oblige à des détournements du principe de plaisir, et c'est ça le progrès et rien d'autre. Autrement dit, c'est parce que l'analyste ne peut pas tenir son idéal, que la situation analytique peut progresser.
Au revoir.
Merci.